à page 223, on va prendre Perek Lamed He, Pasuk Ravav. Allez, on va prendre Perek Lamed He, Pasuk Ravav, donc chapitre 35, Pasuk Ravav. Donc 5 lignes avant la fin de la page 223. Donc on nous raconte dans la paracha Vayakel l'inauguration du Mishkan. Puisque dans la paracha Terouma et la paracha Tetzaveh, on nous a raconté la construction du Mishkan, ainsi que la construction des ustensiles du Mishkan. D'accord ? Et dans la paracha Vayakhel, on va nous parler de l'inauguration du Mishkan. Alors l'inauguration, ça coûte de l'argent aussi. Parce que construire le Mishkan, ça coûte de l'argent, mais l'inauguration, ça coûte de l'argent aussi. Parce qu'il faut inaugurer les festivités, il faut les payer. Toujours de l'argent. Et justement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc on va prendre Pasuk Ravav, on nous raconte, on nous dit que « Vechol anashim asher nasa liban otana bechorma » Donc toutes les femmes qui avaient, donc il y avait un certain art qui maîtrisait l'art de la couture, on nous raconte que tavou et aizim, ça veut dire elles ont tissé, donc et aizim. Alors ce qui est intéressant, c'est filé, mais elles ont filé directement sur les chèvres. Parce que, comme Rachid explique, une fois qu'on a déjà tendu l'animal, la laine est déjà d'une qualité moins bonne. Et le mieux, c'est quand on arrive à la filer directement sur la chèvre. Bon,
ouais, donc, on n'a pas bien compris.
C'est très dur. Elles l'ont fait. D'accord. Mais c'est pour ça que je m'arrêtais. C'est une technique, c'est-à-dire tu vas le tisser sur la chaise, après tu le coupes et déjà tissé. C'est-à-dire t'as un fil de la meilleure qualité possible. D'accord. Maintenant on continue, et c'est sur ce pasuk Rav Zayin que je vais m'arrêter. On nous dit que Ve'anesiim Eviou. Les Nessiim, c'est les chefs, Eviou, ils ont amené, et avené à Shoam, donc les pierres précieuses, Ve'et avené à Milouim. Ve'et avené à Milouim, la Ephod, Ve'la Chochen. D'accord. Donc ils ont amené les pierres, donc toutes les pierres qu'on avait besoin. Ça veut dire c'était principalement les pierres qu'on avait besoin pour les vêtements du Kohen Gadol, les pierres précieuses, pour le Ephod et pour le Chochen. Donc pour le pectoral du Kohen Gadol, d'accord. Et pour le, donc il avait comme une sorte de long vêtement, comme une sorte de tablier dans lequel il y avait des pierres précieuses. Alors on va s'arrêter sur un point qui peut nous paraître anodin, mais que Rashi va s'arrêter longuement dessus. C'est le fait que sur le Hanesiim, normalement dans la grammaire des Hanesiim, il doit avoir un yud entre le sin et le aleph.
Il manque un yud. Pourquoi ?
D'accord ? Donc, ça veut dire que là, maintenant, je l'ai lu Vanessi parce qu'on a les voyelles. Et si on n'avait pas les voyelles, comment on aurait dû lire ? On aurait dû lire Vanosim. Et même si on aurait lu Vanosim, on aurait dû mettre un yud entre le aleph et le même. Quoi qu'il en soit, il manque toujours un yud. C'est-à-dire que là, ça ne suit pas la règle de la grammaire. Dans les règles de la grammaire, nasi, il y a toujours un yud. D'ailleurs, quand on écrit nasi, c'est nun, samer, yud, aleph. Il y a toujours un yud. D'accord? Toujours. Et donc là, c'est un peu bizarre qu'il n'y a pas de yud. Et vous allez voir ce que Rashi va développer de ça. Prendra un commentaire du rabbi dessus. Alors, Rashi, en fait, comme très souvent, ne pose pas la question. Il va directement répondre à la question. Merci beaucoup. Rashi ne va pas poser la question. D'accord? Il va directement répondre à la question. Merci beaucoup. Rashi dit comme ça. Ma Rabbi Nathan a dit Ma raou nesiim li itnadev bachanukat amizver bitrila. Ou bim lechet amishkan le itnadvu bitrila. Je traduis. Rabbi Nathan il pose la question. Il dit comment ça se fait que les nesiim, les chefs, c'est les chefs de tribu. Donc combien de chefs de tribu on avait? 12. Comment ça se fait que les chefs de tribu, ici, dans la paracha Vayakel. Amen. Comment ça se fait que dans notre paracha, on voit que les chefs, pour l'inauguration, la participation aux frais d'inauguration, ils ont payé tout de suite, avant tout le monde. D'accord ? Ça veut dire que les autres étaient encore en train de se préparer. C'est pour ça que je vous ai montré l'histoire des femmes. Les femmes étaient encore en train de préparer. Mais les chefs, tout de suite, ils ont donné. Et après, la paracha va nous raconter dans le verset 29.
Qu'est-ce qu'ils ont donné ?
Ben, ils ont donné, il manquait des choses pour l'inauguration.
On le voit pas, ça, non ?
D'accord ? Si, bien sûr. Tu le verras, c'est écrit.
Ah bon ?
D'accord ? Donc on voit que les Nessim, les chefs, ils ont donné tout de suite, avant tout le monde. Et après seulement, on a l'impression qu'il y avait quelque chose à donner, ils étaient VIP, ils ont donné en premier. Alors que Rashi nous fait remarquer, lorsqu'on a travaillé donc lorsqu'on a ramassé pour la construction du Mishkan, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que les Nessim, ils n'ont pas donné. Attendez, on va voir. Et là seulement, Kar Amrou Nessim. Grand prince, d'accord? Comme ça, on dit les Nessim. Ils ont dit, itnadvu tibour, machem itnadvim, que la communauté donne ce qu'ils donnent, ou machem echastrin, à nous, machlimin auto. D'accord? Et ce qui manquera, nous on paye. Et le problème, c'est qu'ils se sont fait avoir. Pourquoi ils se sont fait avoir?
Il y avait tout.
Alors là, vous allez voir que là, je traduis le Rachid sous une forme connotation négative, pour les Nessim en tout cas. Et bon, pour l'instant, je le traduis, après on va développer. Rachid nous raconte, donc on va relire dans les mots. Ah, Rabbi Nathan, de Mara ou Nessim, comment ça se fait que les Nessim ont décidé les Itnadev, Achanouka, Tamizbear, Bitrila, que pour les frais de l'inauguration du Mizbear, de l'hôtel, ils ont participé en premier, avant tout le monde. Alors que lorsqu'on a ramassé pour la construction du Mishkan, là, ils n'ont pas payé au début. Au contraire, et là seulement, car Hamrou Nessim, les Nessim avaient dit, les chefs avaient dit, Itnadvut Tzibur, Mashem Itnadvin, que la communauté donne ce qu'il donne, ou Mashem Echasrin, Anou Mashem Inoto, ce qui manquera, on paye. Seulement, on nous raconte Rachid, qu'est-ce qui s'est passé, et Kevanchi Shlim ou Tzibur Etakol. Le problème, c'est que les Nessim se sont rendus compte que le Kaal a trop donné. À tel point que les Nessim sont venus voir Moshe Rabbeinu, ils ont dit... C'est pas qu'on n'a plus rien à faire, c'est qu'ils ont dit, ils amènent trop, il y a trop d'argent. Arrêtez-les. D'accord. Arrêtez-les. Et là-bas, on raconte que Moshe Rabbeinu, il a donné l'ordre d'arrêter le travail. Pas seulement d'arrêter la collecte. Pourquoi? J'ai eu un commentaire intéressant qui dit... En vérité, les bénis Israël, tant qu'ils voient du travail, tant qu'ils voient qu'il y a de l'activité, ils donnent. Et que Moshe Rabbeinu, pour arrêter la collecte, il a demandé à ceux qui travaillent, il leur a dit, arrêtez de travailler, arrêtez tout. Et dès que les gens ont vu qu'on a arrêté le travail, ils ont dit, ah, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qu'on dit, attendez, il faut arrêter de donner. Parce que tant qu'on n'arrête pas de travailler, les gens vont dire, on peut participer, donner, on donne. D'accord. Et donc là, les Nessim, ils se sont retrouvés, la dernière roue, c'est même pas la dernière roue, il n'y a plus rien. Tout a déjà été payé. On a dû même freiner les gens. Chez Neymar, comme c'est écrit, Vehamlacha Haïta Dayam. Comme c'est écrit. D'accord? Comme c'est écrit, donc on va le lire un peu plus loin, mais en fait, c'est avant. Vehamlacha Haïta Dayam, c'est-à-dire que tout ce qu'on avait donné, tout ce qu'on avait ramassé pour le Mlacha, pour la construction du Mishkan, Haïta Dayam, il y en avait largement. Daï. Comme Dayenu. Dayenu, qu'on dit dans la gare. Dayenu, il y avait largement assez. D'accord. Amrou Nessim. Alors les Nessim ont dit, les chefs ont dit, Malenu là, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on leur a dit, et Viou et Tadnach, on a dit, bon, il nous manque quelques pierres, est-ce que vous pouvez nous amener? Mais enfin, c'est des choses que, de toutes les façons, comme les commentaires expliquent, on avait déjà assez d'argent pour les acheter. C'est ça le chidouche. Et que Moshe, bon, il a eu de la peine pour eux, leur a dit, bon, écoutez, vous savez, donnez de l'argent, on va acheter quelque chose. L'écart, c'est pour ça, il n'a de vous, Bachanoukat Amisbar, c'est là. Dans les frais de l'inauguration de l'hôtel, parce qu'il y avait des frais, il fallait amener des sacrifices, etc. Là, les Nessim m'ont dit, bon, dès qu'il y a la collecte, Prems, on est les premiers.
Chaque chariot.
Ou les fiches, ni Tatsum, Mitrila, puisque la première fois ils étaient fainéants, c'est que la deuxième fois qu'ils ont été plus rapides. Nersera Osmishma. C'est pour ça que Dieu a dit, ah, ça y est, vous réveillez maintenant la deuxième fois. Oui, mais la première fois, vous êtes endormis. Donc c'est pour ça que même la deuxième fois, Dieu leur dit attention. Même quand on dit que Vanessim et Viou, que Zermal et Nessim, ils sont réveillés en premier, on dit non, en vérité, ils sont pas réveillés en premier, en vérité, c'est parce qu'ils ont pris pour leur frais la première fois. C'est pour ça qu'on leur enlevait un Yud. On sait que le Yud, c'est pas n'importe quelle lettre. Non, le Yud, c'est la lettre d'Akadosh Baruch Hu. D'accord. Oui. Donc Akadosh Baruch Hu dit, bon, je vous mets votre nom, mais on met quand même une petite imperfection pour montrer que si vous avez voulu amener, c'est seulement parce que vous avez souffert la première fois. D'accord. Donc Nersera Ot Mishmam Ve'anesim Ktiv. C'est pour ça que c'est écrit Ve'anesim sans Yud. Bon.
Est-ce que c'est eux qui vont partir en explorateur?
Pas forcément. Non, pas forcément. C'est une bonne question ce que vous posez.
Oui, parce que...
Je ne me trompe pas, j'avais lu un midrash qui disait qu'il y en avait qui avaient changé dans la paracha Shlach, quand on nous cite ceux qui vont partir. Bon, mais quoi qu'il en soit ici, alors le rabbi pose une question très simple. Il dit tout d'abord, on a toujours eu l'habitude au fait que la Torah s'efforce toujours de voir le bon côté des choses. La Torah s'efforce toujours de voir le bon côté des choses. D'ailleurs, on le voit, on avait fait un cours une fois sur ça, que comme dit la Gemara Baba Batra, que dans la Torah, lorsqu'on a fait rentrer les animaux, lorsque Noah a fait rentrer les animaux dans la Teva, on voit que là-bas, la Torah, même les animaux impurs, elle les appelle pas impurs. Elle les appelle Asher et Nena Tehora. On a fait tout un cours dans lequel on avait expliqué dans quel cas la Torah elle dit impur, dans quel cas la Torah ne dit pas impur. Et la conclusion à laquelle on était arrivé, c'est que lorsque la Torah raconte une histoire et qu'il n'y a pas d'implication halakhique, la Torah ne va, même si elle doit raconter quelque chose de négatif, elle va le faire le moins négatif possible. Donc là, la question qu'on pourrait se poser, c'est finalement, pourquoi casser du sucre sur les Nessim? Est-ce que finalement la kavana qu'ils ont eu la première fois était mauvaise? Rachid ne l'a pas dit. Rachid a dit que ce qu'ils ont dit les Nessim la première fois, ils ont dit, nous on va laisser amener les gens, et ce qui manquera, on payera. Est-ce que finalement c'était mauvais comme réaction?
Non, mais c'est ambigu.
Alors, moi, quand j'ai lu Rashi, j'ai expliqué que c'est négatif. Rabbi, il dit, non, il dit pourquoi dire que c'est négatif? Il y a peut-être eu une erreur, ils ont peut-être fait une erreur. Mais de dire qu'ils voulaient, Zerma, dire nous on payera ce qui manque et qu'on vous laisse payer vous, mais le peuple, et qu'il y avait une connotation qui était un peu négative. N'oubliez pas que c'est les Nessim. Les Nessim, c'est les chefs, c'est pas des dictateurs, parce qu'on parle de dictateurs aujourd'hui. C'est des représentants. C'est-à-dire, c'est des gens qu'on est content d'avoir à notre tête. Pourquoi dire que les gens qui sont à notre tête, ils disent bon, vas-y, payez, nous on payera le reste. Pourquoi voir les choses négativement? Surtout qu'on voit que Rashi, contrairement à son habitude d'être très succinct, d'être très court, ce Rashi-là a été particulièrement long. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a eu, je sais pas combien de lignes vous avez ici, on a eu 5 ou 6 lignes, alors que Rashi d'habitude est très court. Pourquoi il dit pas directement, il voulait pas payer, c'est pour ça qu'on leur enlevait un yud. Rashi ici, on dirait qu'il y a un message qui veut nous faire passer au travers de ces mots-là. Alors le Rabbi explique la chose suivante, écoutez bien ce commentaire du Rabbi. Commentaire très très joli, et vous allez voir que c'est un commentaire très actuel, que même si on n'est pas nassi, ça peut nous concerner. Il explique qu'en vérité, les Nessim, les chefs, lorsque, dans la première collecte, la collecte du Mishkan, ils ont dit, on va laisser les autres donner et nous on donnera en dernier, finalement, c'est parti d'une bonne intention. Contrairement, complètement contraire de ce que je viens d'expliquer.
Ah oui.
Non, mais c'est pas seulement le Kavzerou, on va expliquer.
Sous-estimé un peu le peuple.
Le Rabbi, il amène un exemple suivant. Il dit qu'en vérité, les Nessim, c'est qui leur image? Quand ils veulent avoir comme image, comment on doit s'occuper de notre tribu? Qui c'est qui vont prendre comme image? Moshe. D'accord. Parce que eux, c'est des chefs de tribu. Donc si c'est le chef de tribu, donc l'image pour eux, c'est qui? Celui qui doit leur apprendre comment on s'occupe de sa tribu, c'est Moshe. Très bien. Maintenant, on va voir ce qui nous a été raconté à propos de Moshe Rabbeinu. Dans la paracha Yitro. Quand on nous parle de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? On nous dit que va yered Moshe min ha'ar el ha'am. Moshe Rabbeinu est redescendu de la montagne vers le peuple. Bon, il est redescendu de la montagne vers le peuple. Rashi s'arrête là-bas. Il dit, ça veut dire quoi que Moshe Rabbeinu est redescendu de la montagne vers le peuple? Parce que c'est évident, il est rentré chez lui comme tout le monde. D'accord? Qu'est-ce que Rashi explique là-bas? Écoutez bien ce que Rashi dit. Rashi dit, melamed, je vous dis dans les mots, c'est pas ici, mais c'est dans la paracha Yitro. Rashi dit, melamed, de là on apprend, chez loya Moshe pone la sakav et la min ha'ar el ha'am. Que Moshe Rabbeinu n'avait pas de vie privée. Poner la saka, ça veut dire qu'il ne s'occupait jamais de sa vie privée. C'était constamment minahar elam, de la montagne vers le peuple, du peuple vers la montagne, de la montagne vers le peuple. C'est-à-dire, en d'autres termes, il était constamment entre Dieu et le peuple. Dieu et le peuple, Dieu et le peuple. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'on apprend de ce Rashi? Que finalement, l'image que Moshe Rabbeinu montrait au Ham Israël, c'était, avant de m'occuper de moi-même, je m'occupe des autres. C'est l'image qu'il leur montrait. Donc eux, en tant que chefs de tribu, le fait qu'ils ont dit, on va d'abord laisser le peuple apporter, c'était au contraire, c'était l'exemple qu'ils ont pris de Moshe Rabbeinu. On sait que le fait d'apporter la Nedava, le don pour la construction du Mishkan, c'était le pardon de la faute du Vaudor. Parce qu'on sait que lorsque Moshe Rabbeinu est redescendu la deuxième fois et qu'il a reçu le pardon d'Akadosh Baruch Hu, donc c'était Yom Kippour, qu'est-ce qu'il a dit? Il a reçu également la seconde Luchot, Akadosh Baruch Hu, il a dit, la Shlemut, la perfection du pardon sera lorsqu'on va construire le Mishkan. Donc puisque ce sera lorsqu'on va construire le Mishkan, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il explique? Il dit, c'est très simple, il dit, les Nessim ont compris que c'est quelque chose de très important. Et pour quelque chose de tellement important, c'est évident qu'on doit faire passer les autres avant nous-mêmes. De qui on a pris cet exemple-là? De Moshe Rabbeinu. D'accord? Donc a priori, c'est pas parti d'une fainéantise, au contraire. C'est parti d'une bonne intention. Et c'est ça ce que Rashi dit. Ils ont dit, itnatvu tzibur mashem itnatvim. Qu'est-ce que Rashi a dit? Que le tzibur donne ce qu'il donne. C'est-à-dire, on veut qu'il donne. Et ce qui manquera, on complétera. Mais c'est pas parti d'une connotation négative. Vous voyez comment très rapidement on peut virer dans le négatif. Le lachanara, etc. D'accord? Alors qu'en vérité, c'est parti d'une bonne intention. Et ils ont dit non. On veut que le Kaal donne, parce que c'est le pardon pour la faute du Vaudor. On veut que chacun participe. Et ce qui manquera, nous on participera. D'accord? Sauf que, attendez. Qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? Ils se sont rendus compte que le Kaal a répondu particulièrement présent. Et qu'ils se sont retrouvés à ne plus participer du tout. D'accord? Attendez. Donc du coup, ils ont pensé à eux. Et ils se sont retrouvés qu'ils n'ont rien donné. Et alors, c'est pas grave si on donne pas. C'est comme ça quand on a un poste de responsabilité, c'est pas grave. Sauf que non, là, il y a un problème. C'est que les Nessim, eux aussi, ils ont participé à la faute du Vaudor. Comme tout le monde. Donc ils ont dit, attends, il y a un problème là. Si Akadosh Baruch Hu fait les choses en sorte qu'ils ont déjà tout payé, et que nous, bon, finalement, on va dire, bon, on va mettre l'argent de côté, on va vous faire payer quelque chose qui était déjà payé. Attends, là, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on a peut-être fait une erreur ici. On a peut-être mal compris quelque chose. Alors, c'est là que, le Rabbi explique, c'est là que les Nessim, ils se sont posés une question très importante. La question qu'ils se sont posés, c'était, est-ce que finalement, lorsqu'on a dit, on va laisser les gens amener, le peuple amener, et nous on amènera par derrière, est-ce que finalement c'était pas de la fainéantise? Et là, c'est un vrai problème. Pourquoi c'est un vrai problème? Parce que, je pense que c'est parti d'une bonne intention. D'accord? La paresse. Je pense que c'est parti d'une bonne intention. Que moi, si j'ai laissé passer les autres avant moi, c'est parce que je pense que pour mon rôle de responsable, je dois laisser passer les autres avant moi, peut-être. Mais sauf que là, lorsqu'ils se sont rendus compte que finalement, on n'accordait plus de place à leur tikkun, ils ont dit non, là il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Plus que ça. Rabbi explique le chose suivante. Il dit un autre point. Il dit un point très important. Il dit, on a expliqué tout à l'heure que la construction du Mishkan, c'était le pardon pour la faute du veau d'or. D'accord. Maintenant, les Nessim, vous comprenez que comme c'est pour la faute du veau d'or, il faut que ça aille le plus vite possible. Parce que c'est une tâche pour nous, la faute du veau d'or. Donc il faut que le Mishkan, on le construise le plus rapidement possible. C'est quoi la meilleure manière, d'après vous, pour les Nessim, d'empresser le peuple à le faire? D'accord. Alors, c'est vrai que quand ils vont dire, pour nous, la meilleure manière, c'est allez-y vous, et nous on complétera, c'est pas mal. Mais si ils auraient mis la main à la pâte, qu'ils auraient dit, on y va, on fonce, on est devant, comme le commandant. Quand le commandant, il est devant, pas derrière. Pas il dit, je gère, et s'il y a un problème, je viens vous sauver. Le commandant est toujours devant. Il part en premier.
C'est la cavalerie, bien
d'accord. Non, mais le commandant, il est toujours devant. Il dit, c'est moi qui sors en premier. S'il y a un problème, je suis là. D'accord.
Chez les feux.
Je sais pas comment c'est chez les autres.
C'est les autres, c'est...
Ah, il est derrière. Ah, il y a un mort, bon, c'est pas moi.
Alors, mais les juges, c'est suivez-moi.
Après moi.
Ouais.
D'accord.
Et ben là, non.
Et ben, c'est ça le message que... Ça, l'erreur qu'ils ont fait ici, les Nessim. C'est ce qu'on leur a reproché. Pas forcément qu'ils avaient une mauvaise cavana au début. Ils ont fait une erreur. L'erreur qu'ils ont fait, c'est que ils se sont dit, on va laisser d'abord le Kahal, on va laisser d'abord le Tibour. Pourquoi? Parce qu'on espère que si on va laisser passer le Tibour va avoir sa capara sur la faute du veau d'or. Et nous, après, on complétera. Sauf qu'il y avait ici une erreur. C'est quoi l'erreur? L'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'en vérité, au contraire, comme on a expliqué, au contraire, ils auraient dû, eux, passer en premier, et peut-être qu'on l'aurait construit encore plus vite. Vous savez en combien de temps on a construit Mishkan? 5 semaines. 5 semaines, tout compris. Avec la taxe, tout compris.
Mais comment le poil des chèvres, il a poussé vite.
Oui, on avait des chèvres, on est sortis avec des richesses énormes. Et c'est quoi qu'est-ce qu'on a reproché aux Nessim? On leur a dit, si vous étiez pris plus tôt, peut-être qu'on aurait fini encore plus tôt. Ouais. Si c'est vous qui avez commencé, peut-être qu'on aurait fini plus tôt. Alors, je vais tirer un enseignement, mais attendez. Et là, je vais tirer un enseignement, vous allez voir que quand on n'est pas des chefs, voilà, on va tirer un enseignement actuel qui nous correspond à nous. Que là, en vérité, on va essayer de se mettre à la place des Nessim. Déjà, faire le choix entre le bien et le mal, c'est pas facile. C'est-à-dire, on a du mal à voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Bon, on va dire que quand on met un peu du sien, on arrive à voir que ça c'est bon, ça c'est mauvais. Le piège et la difficulté des Nessim, c'est qu'ils doivent écouter bien, c'est qu'ils doivent faire le choix entre deux choses qui sont bien. Lors de la première collecte, c'est quoi le choix qu'ils avaient? Ils ont dit, est-ce qu'on va passer en premier et donc pour empresser tout le monde? Ou est-ce qu'on va d'abord laisser passer les autres parce que, puisqu'on est un poste de responsabilité, on doit laisser passer d'abord nos enfants, d'abord les autres. Ça veut dire que c'est pas un choix qu'ils avaient entre quelque chose de bien et quelque chose de pas bien. C'est pas du style, ils arrivent le soir et disent, bon, je vais à un cours de Torah ou je vais au cinéma.
Qu'est-ce qui était le mieux?
D'accord. Non. C'est qu'est-ce qui est mieux? Et ça, c'est très très dur. Ça, c'est très dur, ça. Faire le choix entre deux choses qui sont bien, c'est très très dur. Et pourquoi c'est très dur? Parce que finalement, la question que les Nessim doivent se poser, c'est si on fait passer le peuple en avant, est-ce que c'est parce que vraiment on fait passer notre peuple avant, ou est-ce que c'est parce qu'on est plutôt paresseux? Donc on se dit, bon, on va les laisser faire le peuple, nous on est en haut, on le regarde faire et après on complétera. Et finalement, la fin de l'histoire, puisque la Torah a enlevé un Yud, ça nous a montré que selon la Torah, il y avait une certaine paresse de la part des Nessim. Il y avait une certaine paresse. Ce qui est parti d'une bonne cavana, peut-être. Il y avait une paresse. Mais attention, c'est pas qu'ils ont fait quelque chose de mal. Ils avaient le choix entre deux choses de bien. Mais ils auraient dû prendre le meilleur. Ils l'ont pas fait. Ils étaient un peu paresseux. Vous savez, quand on est paresseux, on dit, bon, je vais me suffire de ça. D'accord, je me suffis de ça. C'était pas bon. Alors, l'enseignement qu'on a tiré, explique le rabbi, l'enseignement qu'on a tiré est très simple. C'est que, des fois, dans notre vie, on a des choix à faire. Par exemple, je me pose la question, est-ce que je passais plus de temps à étudier la Torah pour moi, ou est-ce que je prends du temps pour m'occuper d'un autre? Ou bien, l'exemple classique que j'entends, quand je demande à les gens pourquoi t'es pas venu au cours de Torah, je m'occupais des enfants.
Ah,
peut-être, c'est possible. D'accord. C'est possible. Non, c'est vrai.
Ah bah,
partir du principe que...
C'est pas visé. Non,
oui, ils ont fait les enfants, alors...
Mais, c'est quoi le piège? C'est que, est-ce que c'est une vraie réponse, ou est-ce que cette réponse n'est pas une excuse? Et que si vraiment on voulait... On aurait pu faire les deux.
Il n'y a pas que ça.
C'est ça le piège. Le piège, c'est que c'est pas un choix entre... C'est pas un choix entre une chose positive et une chose négative. Ah, ça c'est relativement facile. D'accord. C'est plus compliqué.
Il faut les anesthésier.
D'accord.
Voilà.
J'essaie un petit peu de... Fais-nez un feu qui douche. Ça, c'est la question. D'accord. La question, et ça, c'est une question qu'on doit se poser constamment. Chaque fois qu'on prend une décision, et que je décide que je ne veux pas le faire parce que je suis occupé avec autre chose. Par exemple, voilà, je dois venir en cours de Torah, je dis que non, je veux m'occuper de ma femme et mes enfants. C'est très important d'occuper de sa femme et de ses enfants. Etc, etc. D'accord. Ou bien, attendez, on va te demander de venir en cours de Torah, par exemple, je veux dire non, je dois aller au travail. C'est vrai, t'as raison, je dois aller au travail, il faut aller au travail, il faut amener de l'argent. D'accord. Mais la question qu'on doit se poser constamment, c'est une bonne chose d'aller au travail. C'est est-ce que finalement, c'est pas une excuse?
Bien sûr.
Est-ce que c'est pas par la... comme je suis paresseux, comme je suis paresseux, alors je dis bon, je vais faire ça parce que ça, mais en vérité c'est une excuse. Vous savez comment on sait que si c'est une excuse? En général on dit que quand c'est une excuse, la réponse elle vient après la question. Enfin, je vais expliquer ce que je veux dire. C'est un par exemple. Lorsque j'ai fait quelque chose, bon, je l'ai fait sans réfléchir. On dit pourquoi tu l'as fait? Je réfléchis, j'ai trouvé une réponse. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé là? L'excuse est venue après l'acte. C'est-à-dire j'ai fait ce que j'avais à faire. Après quand tu me demandes pourquoi t'as fait ça, je dis parce que c'était pour ça. Mais en vérité, au moment où j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai pas pensé à ça. J'ai fait une bêtise. Ma femme m'a dit, pourquoi t'as fait ça? Je dis, oui, parce que c'était pour ça.
Bah, oui.
Mais en vérité, c'était pas pour ça. C'est une bonne raison, ça marche. Ça tient debout. Mais c'était pas la raison. D'accord? Ça veut dire que c'est une excuse.
Vraiment.
Quand c'est une raison, ça veut dire qu'avant de faire ce que j'ai fait, j'ai pensé à ce que j'allais faire.
Donc on se ment à soi-même.
Bien sûr. C'est la différence entre l'excuse et la raison.
Justement.
D'accord? Justement. Ouais. Et c'est ça la raison que pose ici le rabbi. Que les Nessim, eux, quand la première fois, dans la première collecte, lorsqu'ils ont laissé passer les Béni Israël, lorsqu'ils ont laissé passer le peuple avant, ils ont dit non, c'est pas une excuse, c'est une vraie raison. On le fait parce qu'on fait passer notre peuple avant. On veut que notre peuple passe avant. C'est comme la mère qui dit d'abord mes enfants. Pas mal. Peut-être. Sauf que là, il y avait un caractère urgent. Il fallait faire vite parce que rappelez-vous, il fallait enlever la tâche de la faute du veau. Donc il fallait faire le plus vite possible. Donc là, on n'était pas en mode mère-enfant. On était en mode commandant-soldat. Il fallait se mettre devant. Sauf que ça, les Nessim, ils ne pouvaient pas se douter la première fois. C'était une erreur qu'ils ont fait. C'est seulement une fois qu'ils ont vu que tout était déjà payé, ils ont dit, attends, c'est pas possible. Si Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'on est relégué à la fin et que même notre propre pardon ne peut pas l'avoir, c'est qu'il y a un problème. Et c'est là qu'ils ont compris qu'en vérité, il y avait ce qu'on appelle une négia. Une négia, ça veut dire qu'il y avait un petit peu de paresse. Il y avait un petit peu de paresse, et que c'était une excuse finalement, le fait d'avoir laissé passer le peuple en premier.
C'est
pour ça que la deuxième fois, non, rien à voir. Rachid ne parle pas une seule fois de radinerie ici.
Ah oui, mais d'accord. C'est aussi
non.
Possible.
D'accord, pas du tout. D'accord. Rachid nous dit, regardez, Rachid nous dit,
Ici, il paye tout, on n'a rien à payer.
Nit'atzlou. C'est pour ça, attention, c'est pour ça, le rabbi n'invente rien du tout ici, il reprend les mots de Rachid. Nit'atzlou mitrila. C'est quoi, atzel en hébreu? C'est un fainéant. Ça veut dire que c'est une paresse, la paresse. Atzel, Atzlout.
Peut-être parce qu'ils n'ont d'accord. pas participé ou vous d'ailleurs eux.
Les gens sont partis. Tout le monde a participé. Il n'y a que les Lévites qui ont participé.
Alors
les
le peuple était
plus non.
que tout le monde a participé.
Mais non, il y a eu les 3000.
Non.
Il y a eu Macaque.
T'es pas là ou quoi la semaine dernière? C'est un quoi c'est sur ça? On a expliqué que. Bien sûr.
On n'arrête pas de changer.
Pas du tout. On a expliqué.
Non,
il y a eu 3000 morts. Ça, c'est ceux qui ont profité de la situation. C'est comme on avait donné l'exemple de la manifestation. Comme vous avez une manifestation, vous avez toujours ceux qui manifestent pour de vrai, vraiment. Et vous avez les voyous qui sont là en train de casser les magasins et brûler les voitures. Les 3000 qui sont morts, c'est les gens du Erevrat qui ont profité de la situation pour vraiment faire Avodah Zara. Ce qu'on avait expliqué la semaine dernière. Le Ibn Ezra, etc.
Bon.
D'accord. Bon, mais ça, je reviens pas dessus. Ce que je vais expliquer, c'est la chose suivante, c'est que les Nessi'im, tout le monde, ils ont fauté comme tout le monde, ils voulaient un tikkun. Mais eux, c'est passé d'une bonne cavane, ils ont dit non, on laisse passer notre peuple en premier. C'est comme la mère qui laisse passer ses enfants en premier. D'accord? Donc ils sont passés d'une bonne cavana. Sauf que, étant donné que, à la fin, vous savez, c'est des choses comme ça, hein, c'est seulement après coup qu'on peut réaliser. Est-ce que c'était de la fainéantise, de la paresse, ou est-ce que c'était une bonne cavana?
Pour leur en tenir rigueur. Si au premier coup, ils peuvent pas le savoir, et qu'ils ont corrigé eux-mêmes au deuxième coup, comment
bonne question. J'ai expliqué, c'est que étant donné qu'il y avait un caractère urgent et qu'il fallait enlever une tâche des Béné Israël, ils ne pouvaient pas se permettre de dire alors, on les laisse faire et on complète par derrière.
Alors donc,
donc il y avait une erreur de jugement. Mais c'est pas, mais attention, mais c'est pas, ils n'ont pas fait ici une avéra. C'est pas qu'ils ont.
Non,
au début, non, mais c'est vrai. Quand on lit Rashi, et d'ailleurs c'est comme ça que les gens traduisent en général, on a l'impression que les Nessim, c'est grand prince, tu vois, ils disent bon allez-y, faites ce que vous avez à faire, on complète, on est là par derrière. D'accord. C'est mauvais ça.
Attends,
ça c'est pas bon ça. Ça c'est le dictateur ça.
Il y a aussi la possibilité d'orgueil, ça veut dire, et même si vous êtes rien, on payera tout.
On payera tout, voilà, c'est pas de l'orgueil, au contraire, ce qu'on a expliqué. C'est que finalement, il y avait une erreur de jugement. Qu'eux, ils ont voulu être comme la mère qui s'occupe de ses enfants, qui a dit d'abord mes enfants, alors qu'en vérité, comme il y avait un caractère urgent, ils devaient être comme le commandant devant ses soldats. Ils l'ont pas fait. La deuxième fois, ils n'ont pas refait l'erreur. C'est pour ça que la Torah... Attendez, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, explique le Rabbi, normalement, Moshe Rabbeinu aurait dû refuser l'ordre. On dit quoi, ça y est, maintenant, vous venez en premier? Non, je suis pas d'accord. Première fois, vous êtes venu en dernier, vous venez en dernier maintenant aussi. Non, il a accepté l'ordre en premier. Pas parce qu'ils sont VIP, parce qu'il a compris qu'ils ont compris leur erreur. Qu'il y avait une erreur de jugement, qu'on a compris, pas de problème. Et vous comprenez que ça, c'est des choses qui nous arrivent toute la vie. Est-ce que c'est une excuse ou est-ce que c'est une raison? Est-ce que c'est de la paresse? Ou est-ce que c'est vraiment c'est la vraie raison? D'accord, j'ai visé personne. Voilà. En tout cas, avant de refuser encore le Torah, il faut bien réfléchir.
Moi, j'arrive pas à comprendre qu'on leur en veuille.
Non, on leur en veut pas, ce que je viens d'expliquer. On leur en veut pas.
Bah si.
Mais il y a un remès de la Torah pour montrer que quand même, ils ont fait une erreur.
Est-ce que leur erreur, ça n'est pas, une fois qu'ils ont constaté que le peuple avait tout donné, ça n'est pas de ne pas avoir donné?
Bah oui, trop tard.
Parce qu'ils auraient pu à ce moment-là donner.
Non, c'est ce qu'on...
Au lieu de nous dire, ah, je peux plus...
Tu sais, j'ai compris, j'ai compris. Il y a un, comment on appelle ça? Comment ils appellent ça? Un trigger, comment on appelle ça? Ça veut dire, il y a un déclencheur, d'accord? Il y a un déclencheur, c'est-à-dire que le déclencheur ici, le déclencheur de la réflexion que leur a montré qu'il y a une erreur, le déclencheur a été lorsqu'ils se sont rendus compte que... Il ne pouvait plus rien donner. Non, justement. Là, ils se sont rendus compte qu'il y a un problème. Ils ont fait une erreur de jugement. Le déclencheur a été ça. Le déclencheur a été lorsqu'ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas donner. Lorsqu'ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas donner, ils ont réfléchi. Et lorsqu'ils ont réfléchi, ils ont fait une introspection et ils se sont rendus compte que peut-être qu'il y avait une paresse.
Mais c'est pas ça le problème. Ils auraient dû donner peut-être. C'est à ce moment-là qu'il a fait. Au départ, c'était pas une paresse.
Ça va te faire gagner déjà.
Est-ce qu'on peut l'estimer comme ça? Au départ, il venait d'un.
Déjà
c'était du bien.
Oui, non. Au départ, ce que j'ai expliqué. Au départ, il voulait bien faire. Mais justement, ce qu'a expliqué le rabbi, qui a expliqué le. Non.
Ah,
en vérité, il y avait de la paresse. En vérité, il y avait... Non.
Donc, il sait pas qu'il
je répète. Encore une fois, je répète. La différence qu'il y a, c'est que quand j'ai un choix entre deux bonnes choses à faire, et que je vais choisir une par rapport à l'autre, je crois que je choisis pour une bonne raison. Mais c'est possible qu'en vérité, si je choisis l'un par rapport à l'autre, c'est de la paresse. Je prends le plus facile.
Donc, ça n'est pas une bonne
seconde.
Je choisis pas bien.
Mais le problème, c'est que je me... C'est la question de... D'accord. C'est que je m'en rends pas forcément compte au début.
Mais non, tu me dis je choisis entre le bien et le bien.
Oui.
Si tu me dis je le choisis à cause de la paresse, donc ça n'est pas du bien pour du bien, c'est du mal.
Non, c'est pas à cause. C'est une paresse qui est très fine ici. C'est que j'ai un choix entre une chose qui va me prendre tant d'efforts et une chose qui va me prendre moins d'efforts.
Voilà. Ce que je veux dire, c'est
d'accord
que...
D'accord. Je vais finir, d'accord. Donc, c'est quoi la réponse? La réponse est très simple, c'est que je vais choisir entre une chose qui me demande beaucoup d'efforts et peu d'efforts. Moi, je pense... J'ai fini, ouais. Moi, je pense que j'ai choisi celui qui a peu d'efforts parce que c'est la bonne chose à faire. Et c'est possible qu'il y a une raison à faire. Il y a une bonne raison. C'est vrai que ce qu'ils ont dit les Nessim, ils ont dit on laisse passer le cas à l'avant, on prend avec le Moshe Rabbeinu, c'est une bonne raison. Mais, à la fin, le déclencheur a été que, étant donné qu'ils se sont rendus compte que concrètement, ils ne pouvaient pas apporter, ils ont compris certainement que Moshe Rabbeinu les a aidés à arriver à cette conclusion. Ils sont arrivés à la conclusion que peut-être il y avait un petit peu de paradis.
Ce que je ne comprends pas, c'est que dans la bassine où les enfants du peuple ont donné, une fois que l'inauguration du temple a été faite, une fois que l'inauguration du temple, il restait des pièces, il restait de l'argent, il restait de la richesse dans cette bassine-là.
Il restait de l'argent juste pour payer les pierres de Shoham, c'est-à-dire comme ça. Lorsqu'on est arrivé à la fin de la construction du Mishkan, il y avait pile ce qu'on avait besoin.
Pas plus.
Pile. On avait arrêté, on a stoppé. Maintenant, il y avait des choses. On avait déjà stoppé, mais on avait déjà tout ce qu'il fallait. Maintenant, il nous restait certaines choses à acheter dans la liste des courses. D'accord? Il nous restait des choses à acheter. Les Nessim arrivent chez Moshe Rabbeinu et disent, on a déjà ramassé tout l'argent, mais nous, on n'a pas donné encore, on aimerait participer.
Tu avais dit qu'il y avait l'argent pour payer les...
Très bien, je sais ce que j'en ai expliqué. Donc Moshe Rabbeinu dit, ok, l'argent qui est ici, on le met de côté. D'accord? Et vous, vous allez donner du nouvel argent pour acheter ce qui reste. Il restait quelques pierres à acheter.
Mais ça n'aurait pas été normal que Moshe Rabbeinu, finalement,
n'accepte pas le fait qu'il vienne en premier la deuxième fois.
Oui, c'est clair. Mais quelque part, j'ai compris la question, enfin, on comprend la question. Quelque part, et Guy, je vais répondre à la question aussi, quelque part, on comprend que même Moshe Rabbeinu, quelque part, a fait cette erreur au début.
Sûrement,
parce que c'était sa manière de réfléchir.
Et donc, finalement, le fait qu'ils acceptent pour le deuxième coup, qu'il soit en premier et que Moshe le valide.
Ben oui.
Voilà.
Je m'imagine la chose suivante. Les Nessim, au début, ils prennent l'exemple de Moshe Rabbeinu, ils disent, on laisse passer le peuple d'abord. Comme Moshe, il laisse passer le peuple avant sa famille. Et qu'après, avec le temps, lorsqu'ils ont vu que Akadosh Baruch Hu a fait le déclencheur, c'est lorsqu'ils ont vu qu'Akadosh Baruch Hu a fait les choses en sorte, que concrètement, il n'y a plus rien à amener, ils ont dit, attends, c'est pas possible, nous aussi on a un tikkun à faire. Donc ils ont, je m'imagine une réunion, un comité, une réunion avec le comité entre les Nessim et Moshe Rabbeinu, qui se sont dit bon bah certainement que quelque part il y avait un petit peu de paresse dedans et qu'on aurait dû passer devant le Kaal. Et c'est pour ça que personne leur a refusé alors qu'on est en premier. On n'a pas vu que le Kaal s'est plaint, que Moshe s'est plaint, que Dieu s'est plaint. On a même une petite allusion quand même pour dire que.
Il n'y a pas un parallèle aussi avec le Moshe Rabbeinu, qui lui-même avait du mal à aller en premier, et il envoyait très souvent
Ah, peut-être, je ne sais pas, c'est une bonne question, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne le dirai pas si ce n'est pas écrit.
Mais quel est le... Oui, oui, quel est la... Et les corbanes. Quel est la...
J'ai quelque chose.
Quel est le système économique Qui achète à qui vend à qui?
Il n'y a pas de... Il n'y a rien à acheter. Il n'y a rien à acheter, rien à vendre.
À quoi sert cet argent? On transforme l'argent en or? Ou alors cet argent sert à acheter? Et si c'est acheté, c'est acheté à qui?
À l'époque, on n'avait pas les pièces de monnaie comme aujourd'hui.
Oui, c'était de l'or, c'était de la valeur. Qui valait le... C'est pour ça que je te dis, est-ce que c'était une pièce qui était transformée en sa valeur en or? Et on construisait quelque chose.
Mais on n'a rien acheté là. On n'a rien acheté entre nous.
Attends, et le Khati, Khati Shekel, alors ils l'ont donné comment?
Ah oui, la,
vient de la monnaie.
Sinon on aurait dit, sinon la Torah aurait dit.
Ou une monnaie, ou quelque chose qui a valeur de
voilà.
Monnaie.
Non. Sinon, à, dit, à l'époque, du, à l'époque, à cette époque, à cette époque, même
Abraham,
à cette époque,
déjà, il n'y avait
pas les pièces. Il y avait la différence entre les pièces au vert et la sorère. C'est quoi les pièces au vert et la sorère? On parle justement depuis l'époque d'Abraham, des Shekalim. Ça veut dire qu'à l'époque, la pièce valait son pesant d'or.
Ou alors une valeur
d'argent.
Ça veut dire non, ça avait son pesant d'or. Ça veut dire que si la pièce elle vaut 100 euros, bah il y a 100 euros d'or ici.
Il n'y avait pas une autorité économique qui disait voilà. ça je donne la valeur à 100 euros.
Ouais.
Mais sinon la Torah aurait parlé de ils ont apporté de l'or. Alors, la Torah ne dit pas ils ont apporté.
Ils ont apporté les pierres elles-mêmes.
Oui, pour les pierres, mais elle dit ils ont apporté de l'argent pour acheter de.
Oui, bah pareil.
De qui achète-t-il?
Mais l'argent. Mais l'argent, ça peut être de l'argent, c'est de l'argent. L'argent. Vrai argent, c'est ça.
On parle pas de.
C'était du mal à l'époque. Le matériau de l'époque, c'était de l'argent. Non. Il a demandé quelle monnaie ils ont utilisé. Quelle monnaie ils ont utilisé? J'ai dit ils avaient de la monnaie, ils avaient déjà des choses dans cette Égypte.
Qui a acheté à qui?
Ils ont acheté à personne. Pour acheter, ils sont partis acheter au pays avoisinant. Oui, 100%. Racontez.
Ah bon?
On a tout ramené des. On dit par exemple, il y avait des teintures qui sont parties acheter dans les pays voisins.
Il y avait des gens qui marchaient à côté pour vendre des choses.
C'est à côté, combien de temps? Je veux dire, c'est pas loin. Combien de temps? Il faut maximum, c'est à une semaine à l'aller, c'est retour. Ils ont des chevaux, ils ont ce qu'il faut.
Donc en fait, l'argent, il était pour l'extérieur. Maintenant, ils sont en Israël, où ils vivaient de la manne et de.
Ils n'avaient rien à acheter. Rien à acheter.
Voilà, il n'y avait pas d'achat de vente.
Maintenant, peut-être qu'il y avait des trocs comme en prison. Peut-être qu'il y avait du troc comme en prison.
C'est un
Oui, ce que je dis, il y a des gens qui sont partis acheter. Oui. Oui, parce que il y a des choses qu'on n'avait pas.
On n'a pas su faire.
On n'a pas su faire et qu'on a dû aller, chercher du savoir-faire extérieur. Mais c'est pas loin, c'est pas grand. Avec des chevaux, combien de temps il faut maximum une semaine de route, tout casser. Il n'y a pas très loin.
À quoi ça sert que les
enfants? Est-ce que j'ai répondu à votre question, Serge?
Monsieur Zarman, à quoi ça sert que les enfants après les
enfants? Deux secondes, s'il vous plaît. Ah, c'est obligé, ça. Il faut réfléchir, madame.
Je voudrais donner une fois par mois. Et je veux le faire avec mon cœur.